Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا
كل سنبلة حبة فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes d'amitié et de fraternité en ce lundi 28 février 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien affirme que l'Iran soutenait tous les efforts diplomatiques qui conduisent à une solution pacifique au conflit actuel en Ukraine et qu'elle est prête à faire sa part pour établir la paix dans ce pays. Un drone espion a été abattu par un Saraallah du Yémen et des terroristes ont tué 27 personnes dans le nord-est du Nigeria. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé que la République islamique d'Iran soutenait tous les efforts diplomatiques qui conduisent à une solution pacifique au conflit actuel en Ukraine et qu'elle était prête à faire sa part pour établir la paix dans ce pays. La République islamique d'Iran soutient tout effort qui conduirait à un règlement pacifique du conflit en cours en Ukraine et elle est prête à jouer un rôle pour aider à rétablir la paix de toutes les manières possibles, a déclaré M. Raisi lors d'une session du cabinet à Téhéran le dimanche 27 février. Sur la base des principes fondamentaux de sa politique étrangère, l'Iran s'oppose à la fois à l'hégémonie et à la soumission à l'hégémonie et soutient le droit de toutes les nations à l'autodétermination, a déclaré le chef de l'exécutif iranien Ebrahim Raisi, tout en soulignant la nécessité de protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de tous les pays. La République islamique d'Iran comprend les préoccupations de sécurité découlant de plusieurs décennies d'expansionnisme de l'OTAN. Nous croyons fermement que la diplomatie et le respect sincère des obligations internationales par toutes les parties constituent la seule issue durable et juste à la situation actuelle. Le président iranien a également souligné que toutes les parties au conflit ukrainien devaient sérieusement protéger la vie et les biens des citoyens et des civils et respecter les principes du droit international et humanitaire. Le haut responsable iranien de la sécurité, Ali Shamkhani, a rencontré dimanche 27 février le chef du bureau syrien de la sécurité nationale, le général de division Ali Mamlouk, pour discuter des relations bilatérales ainsi que des développements régionaux et internationaux. Ali Shamkhani a dénoncé les activités politiques américaines dans la région pour armer, former et diriger des groupes terroristes, expliquant le rôle destructeur des États-Unis dans la création de crises régionales et mondiales visant à dominer le monde et à piller les ressources des pays. Shamkhani a déclaré que la présence des États-Unis en Syrie, qui a été faite dans le même but, est le plus grand obstacle à la paix et à la stabilité dans le pays. Il a aussi dénoncé la stratégie des puissances hégémoniques qui consiste à propager le terrorisme et l'insécurité dans la région, dont en Syrie, et y changer le régime, et tout cela avec des objectifs séparatistes. Malheureusement, certains voisins de la Syrie agissent dans le cadre de cette stratégie et contre la stabilité et la sécurité de la région. évoquant les bonnes relations entre l'Iran et la Syrie. Le haut responsable iranien de la sécurité a souligné la nécessité d'adopter des solutions appropriées pour faciliter et accélérer la mise en œuvre des accords Téhéran-Damas, notamment dans le domaine économique. Pour sa part, le général de division Ali Mamlouk a rendu hommage à l'Iran pour sa lutte contre le terrorisme américain et a souligné la poursuite de la coopération Téhéran-Damas, évoquant les importantes opportunités économiques de coopération conjointe entre l'Iran et la Syrie dans divers domaines. Mamlouk a déclaré que la présence d'entreprises et d'activités économiques iraniennes en Syrie, ainsi que la poursuite de la coopération conjointe dans les secteurs économiques et commerciaux, crée des avantages durables pour les deux pays. Un drone espion de la coalition d'agression saoudienne a été abattu à Rad, dans la province de Hadja. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a annoncé ce lundi 28 février qu'un drone Skalligel américain de la coalition saoudienne a été abattu alors qu'il espionnait Arad dans la province de Hadja. Deux autres drones ont été également abattus vendredi dernier à Marib et Al-Jawf. L'analyste libanais Abi Nader, tout en énumérant certains facteurs influant la puissance de l'armée yéménite et Ansar Allah dans le ciblage des drones très avancés américains et chinois, a déclaré « Récemment, nous avons assisté à une augmentation très significative de l'abattage de ces drones par les forces yéménites. Le mouvement Ansar Allah a enregistré d'importants progrès dans le domaine du développement d'armes. Bien sûr, il tire leçon des expériences de certains autres pays, mais cela ne peut en aucun cas minimiser les connaissances scientifiques des Yéménites, a souligné l'expert militaire. Alors que les tensions entre l'Ukraine et la Russie s'intensifient, la Commission européenne annonce de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment l'exclusion de certaines banques russes de SWIFT. La question est de savoir si la démolition des installations gazières et pétrolières ukrainiennes par la Russie, étant le pont d'entrée pour transporter le gaz et le pétrole russe vers l'Europe, pourrait entraîner des sanctions en faveur de la Russie et au détriment de l'Europe. Après de longues hésitations, la Commission européenne a annoncé dimanche matin que les alliés occidentaux avaient adopté d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT, rouage essentiel de la finance mondiale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne ainsi que les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux étaient disposés à adopter davantage de sanctions à la Russie en coupant l'accès à SWIFT à un certain nombre de banques russes. Lancé en mai 1973 par 239 banques de 15 pays européens et nord-américains, le code SWIFT constitue l'un des plus importants réseaux de messagerie bancaire et financière permettant les règlements interbancaires entre les établissements financiers du monde entier. La France va fermer son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes à compter de ce dimanche soir, a annoncé le ministre délégué au transport français Jean-Baptiste Djebbari sur Twitter. La France emboîte le pas à de nombreux autres pays européens qui ont pris une mesure similaire en représailles contre l'opération militaire de la Russie contre l'Ukraine. De l'Allemagne à la Suède, en passant par la Belgique et l'Italie, plusieurs de ses voisins ferment leur espace aérien aux compagnies russes. La Russie a fermé jeudi son espace aérien aux appareils civils à ses frontières occidentales avec l'Ukraine et la Biélorussie, ont annoncé les autorités aéronautiques russes, peu après que le président russe Vladimir Poutine a autorisé une opération militaire spéciale dans la région du Donbass. 27 personnes ont été tuées depuis vendredi dans 4 attaques distinctes attribuées à des terroristes dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué dimanche des sources sécuritaires et des habitants. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, branche dissidente de Boko Haram, qui a fait scission en 2016, a multiplié les attaques ces dernières semaines malgré les opérations militaires en cours dans la région. Samedi soir, l'ISWAP a tué 24 civils dans 3 villages de l'État du Borno, ont déclaré à l'AFP un chef de milice et un habitant, affirmant que ces civils étaient visés pour avoir aidé les troupes face aux insurgés. Vendredi, en fin de journée, l'ISWAP a mené une autre attaque à Chibok, toujours dans l'État du Borno, où Boko Haram avait enlevé plus de 200 écolières en 2014, suscitant l'indignation du monde entier. Il s'agit de la deuxième attaque terroriste contre ce village en un mois. Le 20 janvier, l'ISFAP a tué 2 habitants et enlevé 20 enfants, selon 2 habitants et un chef local. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Projet de résolution anti-Russie, le pourquoi de l'abstention d'Abu Dhabi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à New York dans la nuit de vendredi pour un vote sur le projet de résolution qui devait condamner l'opération militaire russe en Ukraine. Lors de cette session, 11 pays ont voté en faveur du projet de résolution, tandis que la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis se sont abstenus. Si s'abstenir de voter signifie rester neutre, en revanche, cela indique la réticence des trois pays qui ne voulaient pas nuire à leurs relations avec la Russie. Il est facile de comprendre pourquoi la Chine s'est abstenue lors du vote. C'est en raison de l'alliance et des relations historiques qu'elle entretient avec la Russie. Quant à l'Inde, elle s'oppose à l'influence occidentale, d'autant plus qu'elle partage des intérêts politiques, économiques et militaires avec Moscou. Mais pourquoi les Émirats arabes unis ont-ils préféré s'abstenir alors qu'ils sont l'un des principaux alliés des États-Unis et de l'Union européenne au Moyen-Orient? Les Émirats arabes unis et la Russie entretiennent de solides relations politiques et stratégiques. Et un jour avant l'opération militaire russe en Ukraine, le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah bin Zayed, a eu des entretiens téléphoniques avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Le ministre émirati a fait part du souci d'améliorer les perspectives de coopération russo-émirati. En 2018, les Émirats et la Russie ont signé une déclaration de partenariat stratégique lors d'une visite à Moscou du prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sur le plan économique, les Émirats arabes unis et la Russie entretiennent des relations étendues et le volume des échanges commerciaux entre ces deux pays a été multiplié par 10 depuis 1997 pour atteindre 5 milliards de dollars par an en 2021, selon les données officielles émiraties. Sani Al-Zayoudi, ministre d'État des Émirats pour le commerce extérieur, a déclaré en décembre dernier que la Russie était l'un des partenaires économiques les plus importants des Émirats, les deux pays réunissant un partenariat stratégique global. Il a ajouté que la coopération économique a fait des bons significatifs dans sa taille et sa diversité au cours des dernières années dans de nombreux secteurs vitaux comme les énergies renouvelables, l'espace, la technologie moderne et la quatrième révolution industrielle. Il a souligné que le marché des Émirats héberge plus de 4000 entreprises russes opérant dans les secteurs de l'immobilier, de l'industrie, de l'alimentation, des infrastructures, des ports, de l'aviation et de la pétrochimie. Les Émirats arabes unis représentent 55% du commerce russe parmi les monarchies du Golfe Persique et les Émirats se classent également parmi les pays arabes les plus importants dans le commerce russe, venant en deuxième position. D'autre part, les Émirats sont le plus grand investisseur arabe en Russie et contribuent à 80% des investissements arabes dans ce pays. Dans le prolongement des relations politiques et économiques, les Émirats entretiennent de solides relations militaires avec la Russie, car Moscou est l'une des sources les plus importantes d'armements émiratis. En février 2021, la Russie a organisé une exposition de plus de 400 marques de ses principaux produits militaires sous le nom IDEX 2021 dans la capitale d'Abu Dhabi. Dans le même temps, Moscou a officiellement révélé un accord signé avec Abu Dhabi prévoyant l'achat de 100 hélicoptères VRT-500 et 100 drones VRT-300. Les Émirats ont également signé un accord en 2017 avec la société militaire russe Rostec pour obtenir un escadron d'avions Su-35. En 2000, le ministre de la Défense des Émirats a signé un contrat avec la Russie pour importer 50 complexes de missiles antiaériens Pantsir et 100. selon les données officielles russes. De 2000 à 2014, les Émirats arabes unis ont reçu des armes et du matériel militaire d'une valeur de 714 millions de dollars provenant de produits de l'industrie de la défense russe. Expliquant les raisons de l'abstention d'Abu Dhabi de voter contre la Russie, Hassan Abdallah Al-Darja, chef du département des médias et des études stratégiques à l'université jordanienne Al-Hussein bin Talha, a déclaré dans son entretien avec Al-Khalij Online: lorsque l'Union européenne n'a pas arrêté les livraisons de gaz et de pétrole russe à l'Europe pour imposer des sanctions à Moscou, il va donc de soi que les pays comme les Émirats arabes unis ont le droit de maintenir des canaux de communication avec toutes les parties et qu'ils se soucient de leurs propres intérêts.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est entré ce samedi dans son troisième jour. L'étau se resserre autour de Kiev, la capitale ukrainienne. D'intenses affrontements se poursuivent autour de Kiev, dans l'est et dans le nord-est, notamment de la capitale, entre les forces russes et les forces ukrainiennes. De fortes explosions ont été entendues ce matin dans la capitale. Et parallèlement à ces évolutions sur le terrain, en effet, les pays membres de l'OTAN ont procédé au déploiement d'armes et d'équipements militaires supplémentaires dans la zone orientale de l'Alliance militaire, et les pays européens, y compris la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont menacé en effet la Russie de sévères sanctions. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce développement important dans la région, les circonstances qui ont conduit à la situation en effet actuelle et bien entendu la perspective des évolutions à venir. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci.
Le président russe Vladimir Poutine veut sortir l'Ukraine de la carte des États, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie française, estimant aussi que la sécurité du président ukrainien Volodymyr Zelensky était désormais menacée par l'offensive russe en cours. Le secrétaire britannique à la Défense a lui aussi accusé la Russie de vouloir prendre l'ensemble de l'Ukraine. Ben Wallace affirme également que l'armée russe n'a pas atteint son objectif principal et a perdu plus de 450 hommes jusqu'à présent. Le secrétaire britannique à la Défense a déclaré que son pays poussait ses alliés à couper la Russie du système mondial de paiement interbancaire SWIFT. Le président français Emmanuel Macron a également déclaré que son pays accélérerait le déploiement de troupes en Roumanie pour renforcer les forces de l'OTAN en Europe de l'Est. La France décidera très bientôt d'expédier ou non des armes supplémentaires à l'Ukraine, a déclaré vendredi 25 février la ministre française des Armées, Florence Parly.
Nous avons livré des équipements militaires et nous sommes toujours en train d'étudier les demandes qui viennent de nous être faites et nous allons statuer très rapidement.
Quand ?
Très rapidement. On ne livre pas des équipements militaires comme on livre de l'aide humanitaire. Ce sont des équipements qui sont soumis à des règles et je crois que c'est heureux que des équipements de cette nature soient soumis à des règles extrêmement rigoureuses, extrêmement strictes, et nous les appliquons, même si bien entendu nous tenons compte d'une situation qui est une situation particulièrement grave.
Est-ce que vous...
La situation actuelle en Ukraine, c'est une situation où la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Donc, ce que vous me demandez, c'est si nous sommes désireux d'entrer en guerre contre la Russie. La Russie est une puissance nucléaire. Nous sommes, nous, l'OTAN, une alliance nucléaire. Est-ce que c'est cela que nous voulons ?
Vous nous dites non.
La réponse est dans votre question.
Cela survient un jour après qu'un autre membre de l'OTAN, les États-Unis, ont annoncé l'envoi de milliers de forces en Allemagne. L'Union européenne affirme, quant à elle, qu'elle imposera à la Russie des sanctions les plus sévères.
Thank you. First, this package includes...
Ce paquet comprend des sanctions financières qui coupent l'accès de la Russie aux marchés de capitaux les plus importants. Nous ciblons désormais 70% du marché bancaire russe, mais également des entreprises publiques clés, y compris dans le domaine de la défense. Ces sanctions augmenteront l'investissement de la Russie, y compris les coûts d'emprunt, augmenteront l'inflation et éroderont progressivement la base industrielle de la Russie.
Le haut responsable de l'UE s'exprimait à l'issue d'une réunion d'urgence avec les dirigeants européens. Les États-Unis ont également annoncé une vague de nouvelles sanctions contre Moscou visant 5 grandes banques russes. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a imposé des sanctions contre une soixantaine d'individus et d'entités. L'Australie et le Royaume-Uni ont également pris des mesures similaires.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Dupré, analyste politique et économiste depuis Bruxelles, et Fabrice Beor, expert pour l'ONGO depuis Moscou. Monsieur Beor, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est un plaisir et l'actualité encore plus.
Monsieur Beor, je l'ai dit en début de cette émission, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est entré ce samedi dans son troisième jour. Avant justement cette évolution lourde de conséquences, bien sûr, la Russie avait demandé des exigences de sécurité à l'OTAN, notamment le refus de l'adhésion de l'Ukraine et le refus de l'expansion de l'alliance militaire aux portes de la Russie. D'abord, quelle est la situation actuelle autour de ce conflit? Et puis, quelles ont été les circonstances qui ont conduit à la situation actuelle?
Les circonstances sont très lointaines. On va faire très rapide. Depuis la chute de l'URSS, l'OTAN, qui avait donc promis, on le sait puisque des documents commencent à sortir, de ne pas s'étendre à l'Est, s'est étendu à l'Est et s'est rapproché des frontières russes. Vous mettez ça en relation avec la géopolitique américaine qui est très clairement expliquée noir sur blanc dans des livres, dans des rapports des think tanks américains. Faudrait-il encore que les Européens et les Français en particulier lisent l'anglais et lisent ce que produisent les Américains, parce que les Américains ont au moins quelque chose d'honnête, c'est qu'ils écrivent ce qu'ils vont faire et ce qu'ils pensent. Et la politique américaine, c'est le containment de la Russie. Pourquoi ? C'est empêcher que la Russie puisse redevenir une puissance pour mettre un régime, on va dire, pro-occidental en place et détruire la Russie en plusieurs entités étatiques. Pourquoi ? Parce que dans la géopolitique américaine, pour contrôler, pour qu'ils puissent continuer à avoir leur domination mondiale, il faut éviter qu'il y ait un concurrent continental. Et pour eux, qui contrôle l'Eurasie, contrôle le monde. Et le cœur de l'Eurasie, c'est la Russie. Donc voilà très rapidement pourquoi les Américains font toujours cette politique jusqu'au boutiste d'arriver que l'OTAN arrive jusqu'aux frontières de la Russie afin de pouvoir la déstabiliser. C'était le but en 2014 puisqu'ils voulaient prendre Sébastopol, qui était sans Sébastopol, la Russie n'est plus une puissance maritime. Ce pourquoi la Russie a réagi et que le peuple de Crimée a également réagi avec le référendum et qu'aujourd'hui il est intégré au sein de la Fédération de Russie. Donc nous sommes dans une situation où après... des années et des années, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine au début des années 2000, par la volonté de dialogue, par la diplomatie, à essayer de faire une entente continentale pour trouver la paix. Mais aujourd'hui, Poutine, on va dire, sa patience a des limites. La politique russe, en fait, pour simplifier, parce que j'essaye de simplifier, mais c'est tellement complexe que quelques minutes ne suffiraient pas, mais... La politique de la Russie a toujours été, en particulier celle de Poutine, de privilégier le dialogue et la diplomatie pour trouver une solution rationnelle. Ceci étant dit, pour trouver une solution rationnelle, il faut avoir en face des personnes qui puissent dialoguer et prendre des décisions. Malheureusement, les Européens ne prennent aucune décision, puisqu'ils sont sous le couvert de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'outil de contrôle politico-militaire d'un impérialisme américain sur l'Union européenne. C'est inscrit d'ailleurs dans les traités européens. Donc, la Russie, c'est pourquoi vous avez vu le dialogue avec le début de dialogue avec les Américains sur demande des Américains, parce que ce sont les Américains qui commandent, donc autant discuter avec le boss. Mais la situation, c'est que, et là je vais conclure pour votre question, pour cette première question, c'est que nous avons une situation où Poutine a mis un ultimatum aux Européens en ce qui concerne la situation en Ukraine par rapport aux accords de Minsk. Il y a eu donc les accords de Minsk signés par la junte au pouvoir et par les représentants de Donetsk et de Lugansk à l'époque. Signé également, mais non pas entre parties prenantes, mais comme garant par Paris, par Berlin et par Moscou. Pendant des années, on a essayé de faire croire que Moscou ne voulait pas appliquer les accords de Minsk, mais il n'a pas à les appliquer puisqu'il n'est pas partie prenante de ces accords. Mais ça devait être Moscou fait pression sur Donetsk et Lugansk pour appliquer ces accords, Paris et Berlin font pression sur Kiev pour appliquer ces accords, sauf qu'ils n'ont jamais été appliqués. Et donc, lors de la première réunion qu'il y a eu, le représentant de la Russie a dit « mais on avait l'impression qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas lu les accords de Minsk et les obligations qu'il devait avoir, en particulier pour Berlin et Paris ». Donc, ils se sont dit « ok, on va réfléchir, on va prendre 15 jours ». 15 jours après, réunion, et là, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Moscou s'est aperçu que Paris et Berlin ne voulaient pas faire appliquer les accords de Minsk volontairement, parce que Washington leur demande de ne pas les appliquer. Voyons donc que cette diplomatie, puisque la diplomatie américaine, c'est fait ce que je dis, hein, ce sont pas un dialogue, c'est un monologue. Donc la Russie, voyant qu'on a usé sa patience sur des années et des années, a aujourd'hui, on va dire, mis un terme à ce jeu de dupes, et met aujourd'hui les responsabilités des pays occidentaux, les met devant leurs responsabilités, puisque les gens disent la guerre a commencé il y a quelques jours, donc la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, mais je rappelle que la guerre a commencé depuis 2014 contre les populations russophones d'Ukraine, et en particulier contre les populations de Donbass et de Lugansk. Les morts, ils n'ont pas commencé depuis deux jours, il y en a depuis 8 ans.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, M. Béard. On va tout de suite à rejoindre Xavier Dupré, économiste, analyste politique à Bruxelles. Monsieur Dupré, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour.
Monsieur Dupré, Monsieur Béard l'a rappelé, la Russie prenait toujours le dialogue, mais le dialogue n'a pas fonctionné, notamment alors ces derniers temps. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Alors, est-ce que les pays impliqués dans la récente crise auraient pu agir différemment pour ne pas pousser, pour désamorcer, si on peut dire, la crise? Et quels sont aujourd'hui les risques de débordement de la crise actuelle?
Alors, je vais essayer d'abord de limiter mon propos. Je ne suis pas historien, je ne connais pas l'histoire. Ce que je sais, c'est que des gens qui sont plutôt dans l'establishment européen aujourd'hui, je parle de Dominique de Villepin, je parle d'Hubert Védrine, disent clairement, mais c'est peut-être parce qu'aujourd'hui la situation s'est portée aux extrêmes, c'était qu'une hypothèse de ma part, disent clairement que les Occidentaux ont commis l'erreur de mépriser et d'ignorer la Russie depuis les années 2000, et sans doute même auparavant, depuis la chute du mur de Berlin. Donc on paie aujourd'hui cela. C'est ce que disent des gens comme Dominique de Villepin ou Hubert Védrine, je ne fais que les citer. On note aussi que du côté américain, des gens qui étaient des experts des relations internationales, notamment Brzezinski, ne désiraient pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Ils n'ont pas été entendus, c'est très clair. La diplomatie néoconservateur, le courant néoconservateur aux États-Unis les a ignorés. Nous en payons aujourd'hui d'une certaine manière le prix. La question de la finlandisation de l'Ukraine, qui a été pendant longtemps décrite comme un tabou, aujourd'hui vient de tomber, elle est tombée il y a quelques jours. Il a fallu que, quelque part, le climat monte aux extrêmes pour que, finalement, on accepte la réalité des demandes de sécurité de Moscou. Alors, jusqu'où pourraient aller les choses aujourd'hui ? Je crois que les Européens ne sont pas dupes de ce qu'ils font. Ils sont en train de produire une stratégie des sanctions en laquelle ils croient assez peu. Puisque de toute manière, vous savez, c'est très difficile d'appliquer des sanctions. Le cas de l'Iran, enfin, le cas de la Russie. Nous savons que des sanctions ont été appliquées à la Russie et ça a plutôt réussi à l'économie de ce pays. En Europe occidentale, on le sait, il y avait un embargo sur le pétrole iranien. Aujourd'hui, il y a une production journalière d'1,5 million de barils de pétrole de la part de l'Iran. Donc la stratégie des sanctions fonctionne assez mal et assez peu. Je crois réellement que pour l'instant, on est dans la posture symbolique. Est-ce qu'on pourra revenir à la table des négociations? Ce serait vraiment l'idéal. Je crois vraiment que les Européens, mais je peux l'expliquer pourquoi, y ont matériellement intérêt. Simplement, là pour l'instant, ni l'Europe, ni l'Union Européenne, ni même les nations souveraines d'Europe, hein, la France ou l'Allemagne, plus personne n'a la main sur le dossier. Alors je dis que nous avons tout intérêt, je crois qu'il y a un souhait réel qu'il y ait un retour à la table des négociations. Après tout, négocier, faire la paix, ça signifie qu'on dépasse un état de guerre. Donc il n'y a rien qui est anormal dans la situation actuelle. Et quelle nation d'Europe n'a pas fait la guerre à son voisin à un moment donné? C'est notre histoire. Merci. Et je pense que nous avons intérêt en tout cas à le faire parce que vu la crise du gaz et des produits pétroliers, c'est clairement la reprise économique en Europe occidentale qui est en jeu aujourd'hui. Ça, c'est dans la tête de tous les décideurs européens.
Merci pour ces précisions. Monsieur Dupré, restez avec nous. Monsieur Beurre, donc, Monsieur Dupré l'a rappelé aujourd'hui, malheureusement, l'Europe paie le prix des velléités expansionnistes de l'OTAN. Il faut entendre par là des États-Unis, bien entendu. Quelles sont aujourd'hui les répercussions géopolitiques et géostratégiques de la crise ukrainienne pour l'Europe? Et puis, cette stratégie des sanctions dont parlait Monsieur Dupré de la part de l'Union européenne contre la Russie. Alors, comment l'évaluez-vous?
Depuis la chute de l'URSS, les États-Unis donc, étaient, on va reprendre des thèmes classiques, mais c'est une vérité, la seule superpuissance. Depuis quelques années, avec en particulier la montée de la Chine et le retour de la Russie en tant qu'État, et en particulier sur la scène internationale, nous sommes dans une tectonique des plaques géopolitiques. Je le répète, mais nous sommes vraiment dans cette période d'entre-deux, allons-nous dire, pour retrouver un nouvel équilibre. Aujourd'hui, on vient de franchir une étape. L'hypocrisie du dialogue international, en particulier donc de l'Occident avec la Russie, aujourd'hui est tombée. Il suffit d'écouter le discours, non pas lorsque Vladimir Poutine a reconnu les républiques Donetsk et de Lugansk, non plus lorsqu'il a déclaré l'opération militaire, mais celle qu'il a faite hier. Celle qu'il a faite hier, elle dure à peu près 28 minutes. Je demande à tout le monde de l'écouter. Tout est dedans. Tout est dedans. L'histoire et les raisons pourquoi il le fait. Et il pointe du doigt, comme on dit, mais tout le monde au carré, en particulier les pays occidentaux, sur effectivement leur responsabilité. Et donc nous sommes aujourd'hui effectivement dans un tournant géopolitique majeur où la Russie a arrêté de jouer ce jeu de dupe. Et aujourd'hui, il s'agit de revenir à des bases simples de relations internationales qui sont des rapports de force, puisque la Russie était prête au dialogue, et est toujours prête au dialogue, mais a compris que les Occidentaux ne peuvent venir à la table des négociations que lorsque le fusil sort de son étui. Malheureusement, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça que la Russie en a conclu il y a quelques jours, et c'est pour ça qu'elle est passée aujourd'hui à l'offensive. Donc maintenant, pour les Européens, je répète toujours la question, sont-ils souverains dans leurs décisions, en particulier de relations internationales? Sont-ils souverains dans les questions, entre guillemets, de sécurité sur le continent européen? Je le répète encore une fois, non. L'OTAN est aux mains des Américains. L'OTAN est l'outil de contrôle politico-militaire de l'Union européenne. C'est inscrit dans la constitution du traité de Lisbonne, noir sur blanc. Si les Européens, évidemment, et ils sont en fait dans une situation ambiguë, puisqu'ils sont, et la France en particulier, on va dire, suivent la politique américaine, mais ça va à l'encontre de leurs propres intérêts. Puisque l'Allemagne a un intérêt plus que, on va dire, stratégique avec la Russie sans le gaz russe, l'Allemagne s'est harakiri pour son économie. La France n'a aucun intérêt à soutenir l'Ukraine ou quoi que ce soit en Europe de l'Est. Aucun. Maintenant, les sanctions que les Européens disent appliquer, vont vouloir appliquer, mais quelles sanctions? Ils vont réduire leur consommation de gaz et de pétrole, sauf que les pays producteurs de gaz ont dit qu'on ne peut pas faire de plus que cela. Et ils sont au pic de leur production et il ne pourra pas y avoir de gaz supplémentaire. Et quand bien même ils voudraient rompre les relations, c'est-à-dire les contrats à long terme sur la fourniture de gaz et de pétrole, ça veut dire qu'ils devraient multiplier les prix par 3, par 4, par 5 sur le marché mondial. Donc les Européens n'ont pas le choix. Les sanctions qu'ils font, c'est cosmétique. Ça n'aboutira absolument à rien. Il y a Londres qui, hier, a dit qu'ils allaient faire des sanctions contre les biens de Vladimir Poutine et de Sergueï Lavrov, donc en Angleterre. Comme si Sergueï Lavrov et Vladimir Poutine avaient des comptes bancaires en Angleterre. Mais ces gens-là, c'est du théâtre. Derrière, il n'y a absolument rien. Ils se retrouvent le nez devant leur lâcheté. Leur lâcheté, c'est de n'avoir rien fait contre la junte de Kiev, de l'avoir même soutenue. Et dans votre reportage, il y avait donc la ministre de la Défense française qui parlait de livraison d'armes. Mais ils vont livrer les armes comment? Les ports sont contrôlés et bientôt sont totalement, les ports ukrainiens, totalement contrôlés par la Russie. Kiev est encerclé, c'est-à-dire la route de l'Ouest par la route est terminée. L'espace aérien est totalement interdit. Ils vont faire comment? Donc tout cela, c'est du théâtre. La Russie les met devant un fait accompli. Et maintenant, s'ils veulent négocier, ils vont négocier aux conditions de la Russie. Et la Russie, encore dans ce moment-là, sera certainement très équilibrée. Ils ont dit qu'ils sont prêts au dialogue, revenir à Minsk, et cette fois-ci faire des accords. Et en fait, ce qui aurait dû être fait depuis 2014, avec les accords de Minsk 2014-2015, c'est-à-dire la fédéralisation, la finlandisation de l'Ukraine. Et c'eût été la meilleure solution pour l'Ukraine. Alors, il était un pont entre les deux Europes, entre celle de Bruxelles et celle qui se construit autour de Moscou. Et ça aurait pu nous rapprocher par l'économie. Et l'Ukraine aurait été économiquement un pays formidable. Aujourd'hui, elle est à la banqueroute. Aujourd'hui, au pouvoir. C'est un rassemblement d'oligarques et des néo-bandéristes. En France, en Europe occidentale, on dirait fasciste. Le bataillon Azov, par exemple, je rappelle toujours, ce bataillon Azov va revenir sur le devant de la scène. Aujourd'hui, il est question, et je terminerai là-dessus, Poutine a dit très clairement, il est question de démilitariser l'Ukraine. Pourquoi? Parce que c'était le jeu que faisaient les Américains pour déstabiliser la Russie. Ça n'arrivera pas, ils ont dit que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que ça a été l'erreur de croire qu'il fallait attendre en 1941. Ils ont trop attendu et ils se sont fait attaquer. Donc ils ont dit ça n'arrivera pas, on va prendre les devants. Merci. Et les devants, c'est ce qu'ils font maintenant. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation, et je conclue là-dessus, nous sommes dans la situation, l'Occident n'a rien fait, ils ont méprisé la Russie, ils ont soutenu une junte au pouvoir, une junte russophobe. La Russie prend les devants, prend ses responsabilités, fait ce qu'il faut pour purger le pays, et les Européens, leurs sanctions ne servent strictement à rien. Ils vont simplement devoir, s'ils veulent négocier, venir à la table des négociations, mais cette fois-ci, ils n'auront plus de marge de manœuvre, ils devront appliquer les exigences de Moscou et aux conditions de Moscou. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est le retour de la géopolitique, le retour des réalités, et c'est que lorsqu'on se moque de la Russie, lorsqu'on ne fait pas attention à ses demandes de sécurité, eh ben, il y a une réaction.
Merci beaucoup.
Nous sommes devant un élément historique. C'est la fin du bloc occidental et de ce unilatéralisme, et qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans écouter les peuples du monde.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Monsieur Dupré. Monsieur Dupré, donc, la Russie met les pays occidentaux, européens et américains, devant le fait accompli. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie. Est-ce qu'avec ces récents développements, on pourrait s'attendre, en effet, à l'apparition d'un nouvel équilibre, d'un nouvel ordre mondial?
Dans un avenir immédiat, sûrement pas. Il y aura en tout cas, il y a une possibilité, elle est toujours là, de redéfinir un certain équilibre sur le continent européen autour de la finlandisation de l'Ukraine, qui n'est plus un tabou aujourd'hui. Je veux dire, j'écoute Hubert Védrine, j'écoute des gens, bon, ça se dit. Bon, ils ne sont pas aux commandes, mais ça se dit. Je crois aussi que la détermination russe a quelque part mis les Américains eux-mêmes devant le fait accompli. Ils se rendent compte que c'est une chose très sérieuse. Il ne faudra pas, à l'avenir, tenter de déstabiliser la Russie sur ces questions de sécurité nationale. De plus en plus, en tout cas, lorsqu'on lit des spécialistes de la question, on voit apparaître une nouvelle conception des relations internationales. Lorsque les États-Unis étaient la puissance dominante, l'unique grande puissance dominante, lorsque le duopole de la guerre froide s'est disloqué, il était très clair que les États-Unis allaient promouvoir un discours wilsonien, le destin manifeste, etc. Enfin, voilà, donc les grandes valeurs transcendantales auxquelles devraient s'arrimer tous les pays du monde dans le concert des nations. Aujourd'hui, on voit clairement que c'est la conception réaliste des relations internationales qui va prévaloir à l'avenir, dans laquelle des grandes puissances disposent de zones d'influence. C'est quelque chose qui s'écrit aujourd'hui, c'est une nouveauté. On écrivait cela il y a encore 5 ans, on pouvait être taxé de fasciste pour ça, ou de réactionnaire, ou que sais-je. Aujourd'hui, on dit que c'est finalement un constat de bon sens. Donc il y a des évolutions qui sont en cours. En tout état de cause, à court terme, le simple fait que nous autres Européens, les Allemands et les Italiens, parce qu'ils ne pourraient plus payer leur gaz si on débranchait les banques russes du système SWIFT, il faudrait quasiment arriver avec des camions de dollars pour payer le gaz, eh bien, en réalité, tout cela indique aujourd'hui que les Européens finiront bien par renégocier, on renégociera en Europe le statut de l'Ukraine. Ce n'est plus un tabou. Et à partir de là, un nouvel ordre du monde davantage multipolaire se mettra progressivement, incoativement en marche avec, je ne sais pas si on peut dire qu'un cas, avec parfois, oui, ce type d'incident.
Merci.
Malgré tout, c'est un événement important, c'est une guerre. Donc, il faut vivre cela avec beaucoup de respect et oui, de compréhension, parce que c'est quand même une guerre.
Merci. Merci Xavier Dupré, analyste politique, économiste depuis Bruxelles, Fabrice Beurre, expert pour l'ONG depuis Moscou. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Jalal Ali Ahmad, un écrivain engagé. Jalal Ali Ahmad s'inscrit dans une lignée de penseurs et d'écrivains iraniens qui ont choisi depuis quelques décennies, avec des perspectives différentes, gauche ou islamique, de rendre compte de l'émergence dans le milieu intellectuel des années 30 du calendrier iranien d'une nouvelle entité, le social. Ainsi, progressivement, la représentation de la société apparaît dans le genre romanesque et remplace l'univers fantastique du conte iranien. À son tour, Ali Ahmad s'empare du concept comme matériel romanesque. Son expérience d'instituteur l'ayant rendu sensible aux difficiles conditions de la vie campagnarde et villageoise, il s'engage dès les années 30 du calendrier iranien dans une campagne de dénonciation de la misère, de la fausse modernité et de l'injustice sociale. La malédiction, l'un des derniers livres de Jalal Ali Ahmad, écrit pendant la première moitié des années 40, est fortement habité par cet esprit critique. Jusqu'à quand le villageois doit manger du pain et du haour et seulement 2 fois par an du riz? Cette dénonciation a pour cadre le monde paysan, qui constitue pour l'écrivain un sujet particulièrement fécond. L'univers décrit par Ali Ahmad révèle une société iranienne désorientée par un développement apparent qui pèse comme une fatalité sur des êtres qu'il ne tarde pas à marginaliser. Si l'auteur porte dans ce livre un regard négatif sur la société, en revanche, son imaginaire lui permet de s'affranchir des réalités qu'il décrit. Ali Ahmad concentre l'intrigue de la malédiction à l'intérieur de l'espace restreint d'un village isolé, séparé de la ville. Dès l'ouverture du récit, il nous place dans le décor imprécis d'un bourg dont le nom n'est pas nettement indiqué. Tous les villages iraniens ne se ressemblent-ils pas? Pour ce qui est de l'époque, de nombreuses indications historiques permettent de situer les événements durant l'épisode de la réforme agraire instigée par le Shah. Ali Ahmad utilise à l'intérieur de cet espace-temps une riche palette de thèmes liés à la paysannerie, nourrie de ses visites et de son travail dans les milieux ruraux. Il collecte ainsi un grand nombre d'informations au sujet du mode de vie villageois. Il égrène ensuite la liste d'un ensemble de métiers dont il s'applique à décrire les particularités de manière réaliste. Directeur d'école, intendant, mendiant, femme de ménage, etc. Les personnages de la malédiction sont des héros humains, des hommes ordinaires avec leurs ambitions, leurs joies et leurs souffrances. Quant aux personnages principaux, citons tout d'abord le narrateur, instituteur et intellectuel engagé, omniprésent, très attiré dans sa jeunesse par le marxisme, la vieille Bibi, propriétaire et chef absolu du village, à la fois autoritaire et raisonnable, symbole de l'union des paysans, l'intendant, citadin pourtant soucieux des affaires du village et qui agit avec ruse et habileté, le fils de Bibi, avocat fortuné et intéressé qui a le bras long en ville, le derviche, un très sage mendiant, et Fazlollah, un jeune ignorant, un illettré fasciné par la ville. En effet, il s'agit pour l'auteur de dépeindre, et dans un même mouvement, de dénoncer un univers en marge habité par des êtres soumis à une modernité importée et aliénante, des êtres soumis à la corruption du pouvoir, de l'armée et même de la radio. Dans la malédiction, la radio est le symbole le plus saillant de la modernité, à côté du tracteur et du moulin à moteur. Le tracteur devient source de conflit entre les agriculteurs. Le moteur place le pain du village sous le contrôle d'une compagnie étrangère et enfin, la radio, facteur aggravant, devient un outil de propagande politique ou de publicité pour produits étrangers. Par le biais de cet espace clos, Ali Ahmad décrit la situation globale de l'Iran. Pour lui, la modernité importée n'a pas fait progresser le pays. Elle a déraciné les Iraniens en altérant leurs coutumes et leur mode de vie. Elle n'a en rien résolu les véritables problèmes tels que la pauvreté ou l'injustice. Malgré les apparences, le pays reste non développé, à l'image de l'emblématique village du récit. Les conditions de vie misérables des paysans sont décrites à plusieurs reprises à travers le regard du narrateur. Il y a 1 million d'hogars paumés comme ça. Pas de terre, ni d'eau, ni de culture, comme s'ils étaient des bêtes ou des étrangers. Les paysans décrits par Ali Ahmad vivent dans une précarité permanente, aggravée par les conditions météorologiques et l'économie de marché. Ils sont mal rémunérés et ne bénéficient d'aucune protection sociale. Ali Ahmad développe surtout l'image récurrente d'un groupe social exploité par un monde représenté ici par la ville et la compagnie étrangère. Pour échapper à toutes ces misères, certains choisissent l'inertie et la passivité du mysticisme, vivement dénoncée par Ali Ahmad. Pourquoi ceux qui fabriquent nos usines et nos tracteurs ne connaissent pas ces mondes mystiques? C'est seulement nous qui mettons sur notre table, au lieu du repas, un bol de mysticisme. Ainsi, le mysticisme, au-delà de sa dimension religieuse, devient pour l'écrivain l'expression d'une vie de renoncement et de fuite. L'auteur condamne leur enfermement dans un mode de vie dont ils ne parviennent pas à s'extraire. Ali Ahmad se propose en somme, à travers cette représentation du monde paysan, d'affronter les problèmes de son temps en s'appuyant sur une expérience qui est le fruit de sa propre vie, mais aussi de définir le rôle théoriquement dévolu aux intellectuels. Le romancier constate un véritable décalage entre les particularités culturelles autochtones et celles du Nouveau Monde, avant de confier aux intellectuels la charge de combler ce fossé. Son œuvre, remplissant pleinement la fonction édificatrice de la littérature, veut ainsi contribuer à l'épanouissement intellectuel de ses lecteurs. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le héros de son roman est un simple.